Mondial Sport sur RFI. Olivier Pron.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mondial Sport. De retour après plus de 6 mois d'absence, inutile de vous dire combien nous sommes heureux de vous retrouver avec l'ensemble du service des sports. La plus ancienne émission sur l'antenne de RFI reprend donc ses droits les samedis et dimanches soirs à partir de 21h30. Temps universel, on compte sur vous. Et le foot, notamment, y retrouve sa place avec du Messi en long, en large et en tong hier pour nous dire qu'il restait finalement au Barça. Tout ça pour ça, le feuilleton qui fait pchit et Pierre Chaperon pour nous raconter tout ça. Du vélo, nous rejoindrons dans une quinzaine de minutes Éric Chorin sur la route du Tour sur laquelle tant de choses se sont passées aujourd'hui. Gros plan également sur les coureurs colombiens. Au menu du hand avec les tirages au sort, le tirage au sort des mondiaux 2021 ce soir au Caire et puis quelques résultats de tennis à l'US Open au passage. On y va, Hélène Avril? Allez, avant de filer du côté de Madrid pour causer Messi, direction Solna en Suède, dans la banlieue de Stockholm, 9 mois et demi après son dernier match, l'équipe de France y était de retour sur le pré donc et affrontait les Suédois dans le cadre de la première des 6 journées de la Ligue des Nations. Vous savez, cette compétition façon usine à gaz créée par l'UEFA et à laquelle personne ne comprend rien. L'intérêt, c'est que cela occasionne quelques matchs avec un poil d'enjeu, mais pas toujours passionnant à suivre quand même. Bonsoir Antoine Grenier.
Bonsoir Olivier, bonsoir tout le monde.
Alors que dire de ce Suède-France auquel vous avez assisté pour RFI? Court succès bleu, 1-0.
Oui, on n'a pas assisté à un grand match, Olivier, clairement, et l'absence de public dans la Friends Arena de Solna a renforcé cette impression. On savait, en tout cas, on craignait un peu ce match, avec des Bleus dont très peu ont repris leur championnat national. Côté français, seul Léo Dubois avait vraiment eu du temps de jeu ces dernières semaines. C'est peu, surtout contre une équipe comme la Suède, solide, qui connaît son 4-4-2 par cœur et qui est donc difficile à prendre en défaut. D'ailleurs, la première occasion, elle a été jaune et bleue, avec une frappe de peu à côté. Et quand on manque de solutions collectives, faut rappeler que les Bleus découvraient un système à 3 défenseurs centraux. Eh bien, on se fie aux individualités. Et en France, le joueur pour ça, c'est Kylian Mbappé. Il a mis un peu de temps à trouver ses marques, mais à la 41e minute, son slalom dans la surface, ponctué d'une frappe dans un angle fermé, a fait mouche. 1-0. Juste avant, Hugo Lloris avait sauvé la patrie sur une magnifique sortie dans les pieds de Berg. Comme quoi, le sort d'un match peut se jouer en quelques secondes. Quelques secondes de trop pour Antoine Griezmann, qui, s'il n'y avait pas eu de temps additionnel en fin de partie, n'aurait pas raté le pénalty obtenu par Martial et ça lui aurait sûrement facilité la vie, lui qui reste sur 3 échecs en 3 tentatives en bleu.
Que dire des petits nouveaux, bien ou non? On parle d'Upamecano notamment, Upamecano.
Bien sûr, bien sûr. Le petit nouveau, d'ailleurs, Upamecano, le défenseur de Leipzig, il a connu un début de soirée un peu difficile, averti dès la 2e minute pour un tacle pas maîtrisé. Il a ensuite été à l'origine de la principale occasion suédoise au quart d'heure de jeu, en perdant un ballon et en faisant faute le long de la touche. Le coup franc suivi de la frappe de Loustic juste après a donné quelques sueurs froides au banc bleu. Bon, sans conséquence, Upamecano a ensuite géré son match sans prendre de risque. On aimerait bien le voir avec 10 ou 15 matchs en équipe de France parce que le potentiel est là. En parlant de potentiel, d'ailleurs, Olivier, pas d'Eduardo Camavinga ce soir. Faudra attendre au moins jusqu'à mardi contre la Croatie pour voir la grande première en bleu de la pépite rennaise. Et puis à côté des petits nouveaux, il y avait les retours et notamment le retour d'Adrien Rabiot. Sa dernière, c'était le 27 mars 2018 avec l'équipe de France. Ensuite, il y avait eu son refus d'être réserviste pour la Coupe du Monde. Un passage par le purgatoire et donc ce retour à Solna. Retour pas forcément flamboyant. Dans l'entrejeu, Rabiot ne se sera pas beaucoup montré ou alors sur une ou deux accélérations. C'était sa 7e sélection aux joueurs de la Juve et elles se sont avérées plutôt semblables à celles d'avant son coup de sang. Il va falloir qu'il donne encore un petit peu plus, Adrien Rabiot.
Merci Antoine Grenier. Reportage à suivre demain soir à la même heure dans Mondial Sport, dans le même groupe que celui des Bleus. Le Portugal a corrigé la Croatie 4-1. À noter dans le groupe 2, 2 victoires à l'extérieur pour l'Angleterre, 1-0 en Islande et pour la Belgique, 2-0 au Danemark. Allez, on file en Espagne. Plus de 24 heures après la décision de Lionel Messi de rester au FC Barcelone, Sequeda, comme on dit là-bas.
J'ai toujours dit que je voulais terminer ma carrière ici en me battant pour des titres. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a plus de projet depuis longtemps. Chaque année, ils font les fiers, mais chaque année, en fait, on bricole. Nous étions sûrs que j'étais libre, mais je n'irai jamais en justice contre le club de mon cœur, et c'est donc pour ça que je reste. J'ai dit à la direction que je voulais partir tout au long de la saison, mais le président me disait toujours qu'on en parlerait plus tard. Il ne faisait pas attention à ce que je disais, et j'ai été contraint d'envoyer un recommandé pour qu'on m'écoute. Je pensais que c'était le moment, que le club avait besoin de gens plus jeunes, et je pensais avoir terminé mon cycle ici. Cette saison a été très compliqué pour moi, aux entraînements, sur le terrain, dans le vestiaire. Mais si, bon, il reste au Barça contre sa volonté, ça va donc être une année bizarre parce qu'il va continuer, mais il sera fâché contre les dirigeants. Ce sera dur cette année pour les fans parce qu'il va y avoir de nombreuses frictions entre les joueurs et l'équipe dirigeante.
Es una sensación agridulce, ¿no?
Je suis partagé entre la joie que Messi continue un an de plus et la manière de voir comment il reste, presque obligé, sans envie, et avec cette équipe dirigeante. Ça me rend triste pour Messi. J'espère que Bartomeu va vite partir pour prolonger le contrat de Messi et enfin lui redonner le sourire.
Je suis évidemment très content que le meilleur joueur du monde reste au Barça et que l'histoire d'amour continue. C'est une excellente nouvelle.
Tout dépend de son attitude au moment de jouer. S'il arrive à tourner la page, tout dépendra de son attitude.
Et Léo Messi qui affiche donc, vous l'avez entendu, en premier son bonheur total hein, de rester au Barça et des supporters pas si emballés que cela. Bonsoir Pierre Chaperon.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous.
Vous êtes notre correspondant en Espagne, basé à Madrid, mais la volte-face de Lionel Messi, bien sûr, hier, dépasse largement le cadre barcelonais. Le feuilleton du vrai faux départ de Léo Messi semble donc terminé, Pierre. Un feuilleton débuté par ce fameux fax envoyé par la Pulga le 25 août dernier, demandant à partir du Barça. Pierre, que disaient d'abord ce matin les médias espagnols après cette interview en short et en tongs donnée hier à Goal.com par l'Argentin?
Messi est partout, il fait la une de tous les journaux sportifs avec ce verbe qui est passé à la postérité, et merci d'ailleurs à Neymar, c'est queda, traduisez, il reste bien sûr, il est le sujet principal de toutes les émissions radio, de toutes les émissions télé, et encore aujourd'hui. Alors si on se réjouit de sa décision, on pointe quand même du doigt les attaques que fait Messi contre la direction du FC Barcelone. Pour Mundo Deportivo, le message est dévastateur, la Vanguardia, quotidien généraliste de Barcelone, souligne que l'Argentin reste, mais il est dégoûté. Dans El País, l'ancien joueur du Real, Jorge Valdano, qui tient une chronique dans le quotidien, lui pointe du doigt une décision qui fera date. Il dit... Une chose est pire que le départ de Messi, c'est que Messi reste dans ses conditions. Au premier match nul, tous les accords passés sous la contrainte vont exploser. Reste les problèmes footballistiques, les méfiances personnelles et le désir de partir.
Alors, n'en déplaise à quelques grincheux, et lorsqu'on vous écoute, là, depuis quelques secondes, l'impression laissée, c'est que c'est une victoire à la Pyrrhus, hein, pour le Barça.
Pour beaucoup de journalistes, c'est une victoire pour l'institution Barça que Bartomeu n'a pas flanché. Oui, mais le Barça va retrouver un joueur qui est vent debout contre sa direction, énervé par les résultats sportifs, le manque d'ambition, et puis surtout qu'on lui mente sur les transferts. L'an passé, déjà, la direction du Barça lui avait promis qu'il n'avait rien de fait pour l'arrivée de Griezmann, alors que le contrat avait été enclenché dès le mois de mars, et alors que Léo Messi demandait avec insistance le retour d'un certain Neymar. Des petits mensonges au jour le jour pour l'élément clé du Barça qui ont fait craquer le joueur et l'ont donc poussé à envoyer ce bureau fax.
Messi est-il le grand perdant de ce vrai faux départ, de ce feuilleton qu'il a initié donc il y a 10 jours maintenant?
Il est perdant parce qu'il reste bon gré mal gré, comme il l'a expliqué hier dans l'interview. Mais il a quand même secoué un peu le cocotier, dans le sens où il a quand même mis en lumière les problèmes de sa direction. Après, la communication est quand même assez mauvaise. Bien entendu que si Messi estime qu'il n'a pas été entendu par son président sur son possible départ, son seul recours était d'envoyer une lettre recommandée, le fameux bureau fax. Et puis, ce que révèle aussi cette histoire, c'est que Messi est tout de même très mal conseillé par des avocats, notamment, qui n'ont peut-être pas compris le contrat qu'il avait signé et cette clause qui ne pouvait pas sauter après le 10 juin. Le camp Messi qui pensait pouvoir partir tranquillement et qui reste à quai, c'est une défaite, mais bien malin celui qui pourra prédire l'avenir.
Une clause à 700 millions d'euros, hein, bien sûr. Aucun club, a priori, dans le monde ne peut débourser cette somme. Quel accueil peut-on imaginer pour lui au Barça, à présent, avec son nouvel entraîneur, hein, Ronald Koeman, arrivé il y a peu?
Alors, au sein du Barça, on se félicite bien entendu de la décision, même si le tweet sur le compte officiel du club concernant cette information a mis 1h15 à venir. C'est quand même beaucoup. Oui. L'Argentin n'était pas à l'entraînement ce matin. Alors, pour la simple et bonne raison qu'il doit passer des tests PCR Covid-19 avant de reprendre l'entraînement avec ses petits copains. Pour certains commentateurs, Messi est la meilleure recrue pour Koeman. Côté supporters, globalement, on est content de ne pas perdre celui qui a apporté tant et tant de trophées. Après, les supporters du Barça sont quand même plus remontés contre le président Bartomeu. Rappelez-vous qu'avant le confinement, ils avaient déjà agité les mouchoirs blancs contre lui, tout un symbole.
Oui, ça c'est sûr, il y a grosse pression hein, sur le président du Barça. Le feuilleton Messi, a priori, terminé. C'est quoi la suite alors chez les Blaugrana? Un président qui pourrait démissionner, sait-on jamais?
Alors, on va déjà parler du côté sportif, avec le départ de cadres comme Arturo Vidal ou encore Luis Suarez. Les deux se sont entraînés ce matin en marge du groupe, à la demande de Ronald Koeman. Marca annonce que l'attaquant uruguayen et ami intime de Messi est proche de la Juventus Turin. Dans le sens des arrivées, on parle avec insistance du milieu de terrain néerlandais de Liverpool, Jorginho Wijnaldum. À voir également comment va se dérouler la relation entre Messi et Koeman, le nouvel entraîneur du Barça. Un entraîneur un peu à la dure, qui a déjà annoncé la couleur, c'est-à-dire qu'il ne laissera pas de passe droit aux joueurs. Ambiance. Et puis, côté coulisses, je vous rappelle qu'un vote pour une motion de censure est en cours contre le président Bartomeu. Elle sera très difficile, mais pas impossible à obtenir. Elle est soutenue par une bonne partie des candidats à l'élection présidentielle de mars prochain. Et puis Olivier, il va falloir regarder de près cette histoire du Barça Gate. C'est l'histoire de ces tweets calomnieux envoyés à l'adresse de cadres du vestiaire du FC Barcelone. Déjà suspecté d'être derrière cette histoire, la direction du Barça avait démenti. Sauf que selon le très sérieux El Mundo, la police catalane accuserait la direction du Barça de corruption. Des cadres de la direction pourraient être entendus prochainement, selon le journal.
N'oublions jamais qu'au Barça, comme ailleurs, tout ceci s'appelle le football circus. Merci beaucoup, Pierre Chaperon. On vous souhaite une bonne fin de soirée du côté de Madrid et à très bientôt.
Bonne soirée, Olivier.
Encore du foot dans Mondial Sport sur le continent, cette fois avec cette affaire de vol de trophées au Caire, au pays de l'archéologie. Une histoire à peine croyable, l'Égypte, figurez-vous, a perdu le trophée de la CAN, un objet rare que la Confédération africaine de football avait exceptionnellement offert au pays après son fameux triplé, les CAN 2006, 2008 et 2010. Problème, la fédération égyptienne a fouillé dans toute sa collection sans jamais retrouver la précieuse récompense. Une enquête a été ouverte et notre correspondant dans le pays, Frédéric Nkena, a tenté de retrouver la trace de ce trophée.
À l'approche de l'anniversaire du centenaire de la Fédération égyptienne de football, le comité de normalisation voulait constituer un musée à l'entrée du siège pour ses visiteurs. Et pour mettre en valeur la riche histoire du football égyptien, quoi de mieux que de mettre en vitrine ces Coupes d'Afrique des Nations? Encore fallait-il être en mesure de mettre la main sur ces trophées. C'est l'histoire ubuesque qu'a raconté ce vendredi le présentateur vedette égyptien Ahmed Choubert dans son émission sportive Malarab On Time sur la chaîne locale On Sport.
Ils ont demandé, les gars, où se trouve le trophée 2010? On leur a dit, là-bas, jusqu'à ce que quelqu'un leur dise que ce trophée se trouve chez l'ancien capitaine Ahmed Hassan. Qui? Ahmed Hassan. Ils ont alors demandé à Ahmed Hassan, qui leur a répondu en rigolant, j'ai quoi à y voir dans cette histoire? Finalement, à force de chercher en vain, ils se sont rendus compte que ce trophée de la CAN 2010 est introuvable. Un trophée que l'Égypte devait précieusement conserver et qui désormais est introuvable. Ah, je vous le jure, mais ce n'est pas une blague.
Pourtant, en 2013, la Fédération égyptienne de football avait été mise à sac, incendiée et pillée. À l'époque, ces actes de vandalisme avaient été attribués au groupe des Ultras. Après avoir constaté les dégâts, le directeur exécutif de la fédération de l'époque, Sarwat Sualem, avait annoncé qu'une bonne partie des trophées avait été volée sans pour autant préciser si cela concernait celui de la Coupe d'Afrique des Nations 2010, même si c'était fort probable. Pour le journaliste égyptien Amer Fahmy, cette polémique est inutile.
Pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant? C'est peut-être une stratégie pour tromper l'opinion publique et cacher des choses plus graves. Dans l'immédiat, il faut s'attendre à ce que chacun rejette la faute sur l'autre. Bien évidemment, le comité de normalisation de la fédération n'a rien à voir avec tout ça. C'est comme ça que les choses se passent ici en Égypte. C'est la raison pour laquelle je suis très surpris de voir que cette histoire qui a eu lieu il y a 7 ans est remise au devant de la scène aujourd'hui.
Le comité de normalisation a annoncé qu'il a d'ores et déjà ouvert une enquête.
Et l'Égypte a jusqu'à décembre 2021 pour retrouver le trophée, date à laquelle la fédération fêtera ses 100 ans. Reportage Frédéric Nkena. Après cette longue page football, place au vélo. 8 jours que le peloton du Tour de France s'est élancé de Nice. 8 étapes plus tard, les coureurs sont dans les Pyrénées ce week-end. Un diptyque dont le premier volet ce samedi entre Cazères et Loudenvielle s'est révélé riche en enseignements. Bonsoir Éric Chorin.
Bonsoir Olivier.
Une 8e étape qui a donc condamné Thibaut Pinot alors qu'un autre Français, Nance Peters, s'imposait en solitaire.
Ouais, Thibaut Pinot à la dérive et Nance Peters vainqueur en solitaire. Destin totalement contraire pour les deux Français dans les Pyrénées aujourd'hui. Nance Peters s'est offert la plus belle victoire de sa jeune carrière en concluant victorieusement l'échappée du jour sur son premier tour. 13 hommes au départ et le coureur de l'équipe AG2R seul, bras levés sur la ligne. Après avoir franchi en tête le port de Balès et le col de Persoudre, ses qualités de descendeur ont fait le reste pour mettre au pas le russe Ilnour Zakarin. Un truc de fou que l'Isérois raconte à son arrivée. Vers Loudenvielle.
Je m'étais dit, voilà, pourquoi pas essayer dans une échappée d'aller chercher une victoire sur ce Tour de France, mais c'était un peu, c'était un rêve, quoi. Bah là, j'ai fait, donc c'est fou, ouais. Je savais que Zakarin était peut-être plus fort que moi en boss, mais j'ai rien lâché, je regardais mon compteur, j'ai dit, craque pas, t'es devant, c'est toi le plus fort, et allez, vas-y, et puis le public et tout, c'était fou, et voilà, après j'ai joué avec mes points forts, j'ai vu qu'il descendait comme une chèvre dans le premier col, la col de Manté, là, et... Du coup, au sommet du porte-balais, je me suis dit, vas-y, passe en tête et fais la descente, retourne-toi pas et je vais résister après.
Peters, deuxième Français à lever les bras sur la ligne après Julien Alaphilippe à Nice le deuxième jour. Son leader, Romain Bardet, après avoir chuté dans la montée du Manté, a pris la 4e place au général à 11 secondes du maillot jaune à la Mietz en accélérant juste avant la ligne. Mais celui qui a repris du temps, surtout aujourd'hui parmi les favoris, c'est le jeune Slovène de 21 ans, Tadej Pogacar, à l'attaque dans le Persoudre. 40 secondes de repris sur les meilleurs pour revenir dans le top 10 qu'il avait quitté hier sur problème mécanique.
Il a battu d'ailleurs le record de la montée de ce col de Perresourde, un col qu'on peut qualifier de mythique du Tour de France. D'autres ont perdu du temps aujourd'hui, Éric Chorin. Voir le Tour, c'est le cas de Julien Alaphilippe, plus de 11 minutes, et pire encore, de Thibaut Pinot.
Oui, Thibaut Pinot, je le disais, littéralement à la dérive, qui a perdu toutes ses chances une nouvelle fois après avoir été contraint à l'abandon à 2 jours de l'arrivée l'an dernier. Il a rendu aujourd'hui 19 minutes aux autres favoris. Son dos le faisait souffrir depuis sa chute à Nice le premier jour. Un Thibaut Pinot très marqué à l'arrivée.
Je me raccrochais à l'étape de hier, à Orcières, où j'avais des signes qui étaient encourageants, on va dire. Mais sinon c'était la galère depuis samedi, j'ai tellement mal au dos, j'ai pas de force, j'arrive pas à pédaler. Je vais juste m'excuser auprès de mes équipiers, à ceux qui me supportent, parce que ça fait beaucoup d'échecs pour tout le monde, pour l'équipe, pour moi. Peut-être aujourd'hui c'est peut-être un tournant dans ma carrière. J'ai toujours dit que le vélo c'était se battre, prendre du plaisir, gagner des courses, et là, je suis à chaud, mais le tour continue, on va essayer de se battre maintenant, l'équipe est... Elle est très forte de toute façon, donc j'espère que les mecs vont aller chercher la victoire d'étape et ils le méritent de toute façon. Donc voilà, bah, moi je vais croiser les doigts pour qu'on gagne une étape pour tout le monde, ce serait très bien.
Thibaut Pinot qui risque encore de souffrir, Olivier, dans le deuxième volet pyrénéen de ce tour entre Pau et Larens demain, d'autant que la pluie s'annonce sur le tour.
Merci Éric Chorin, avec l'aide de Richard Rifono à la technique. Et bon appétit messieurs du côté de Bagnères de Bigorre où vous dormez ce soir. Egan Bernal, le tenant du titre, peu en vue sur cette première semaine de course, est 5e à 13 secondes d'Adam Yates, le maillot jaune. L'occasion de nous intéresser d'un peu plus près à ces coureurs venus de la cordillère des Andes, présents dans le peloton depuis les années 60-70. Ils ont peu à peu acquis leur lettre de noblesse dans le palmarès du cyclisme international jusqu'à cette victoire donc de Bernal sur le Tour de France l'an passé. Guy Roger les connaît bien, tous, depuis leur début ou presque. Grand reporter pour le journal L'Équipe, aujourd'hui à la retraite, il vient de publier un ouvrage, Bernal et les fils de la cordillère, aux éditions Solar, voyage au pays des grains. grimpeur colombien. Nous l'avons reçu dans ce studio il y a quelques heures. Et nous avons d'abord commencé par parler évidemment d'Egan Bernal, Guy Roger.
Physiquement déjà, il a des qualités, un potentiel hors du commun, exceptionnel. Les tests qu'il a passés ont laissé tout le monde souffler. Personne à son âge n'avait eu des tests comme ça. Sa VO2 max était supérieure à celle de Miguel Indurain ou de Froome, ce qui n'est pas rien. Et puis, Bernal démontre une intelligence et une habileté, une force mentale. Il a tout pour être un champion. Il l'a prouvé très vite. À son deuxième tour, il fait mouche. C'est d'ailleurs le plus jeune vainqueur du tour de l'ère moderne.
C'est le plus jeune vainqueur du tour de l'ère moderne et l'on pense qu'il pourrait s'installer durablement.
Alors, sur ce qu'il démontre depuis le début de ce tour, il est en dessous du niveau de 2019. Assez nettement pour moi, ce serait un problème de dos, mais est apparu un rival qui s'appelle Primoz Roglic, qui marche sur l'eau et qui pour moi est largement au-dessus cette année.
Alors Egan Bernal, on verra ce que nous diront les deux dernières semaines de tour, le passage des Pyrénées, le retour dans les Alpes, il peut se passer encore beaucoup de choses, mais venons-en au cycliste colombien, Guy Roger. Il est la dernière pépite d'un cyclisme qu'on a vu éclore. Alors, il y a le fameux Cochise dans les années 60, 70, mais finalement, celui qu'on connaît le plus, c'est Lucho Herrera. On a eu ces dernières années Nairo Quintana. Qu'est-ce qui fait leur particularité à ces cyclistes colombiens?
Pour moi, incontestablement, c'est la Cordillère. La Cordillère des Andes, ils sont... tout se passe entre 2007 et 4000, donc ils s'entraînent depuis leur plus jeune âge. Egan Bernal, à 8 ans... s'entraînait à 2008, quand il était un champion de VTT. Il s'entraînait chez lui à Zipaquirá, et tous, Nairo Quintana, Lucho Herrera, tous se sont mesurés dans la Cordillère. Pour moi, la Cordillère est la madre, la mère de tout est vertigineux dans la Cordillère. Parce que, non seulement ceux qui mettent un dossard peuvent s'y mesurer, mais également les travailleurs, les écoliers, tout le monde finalement souffre. C'est le reflet de la vie, la Cordillère.
Ils ont tous des destins. Alors, on rappelle le titre de votre ouvrage, hein, Bernal et les fils de la Cordillère. Ça veut tout dire, aux éditions Solar. Voyage au pays des grimpeurs colombiens. Ils sont tous grimpeurs. Ça, c'est le pays qui veut ça et la Cordillère. Généralement, ils sont tous pauvres. Ils sont habitués à la violence parce que la violence est omniprésente dans ce pays. C'est le moteur, c'est ce qui les pousse à se dépouiller, comme on dit, sur un vélo.
Oui, ils ont une chance sur un million de s'en sortir au départ. Ils sont tous nés dans des familles, presque tous nés dans le campo, tous issus de familles de paysans, beaucoup. Et je pense notamment à Nairo Quintana, ou à Patrocinio Jiménez, ou à Cacaíto Rodríguez. Ce sont des vainqueurs d'étapes dans les années 90, c'est pas si vieux non plus. Cacaíto Rodríguez a une très belle phrase. Il dit « Pour moi, mettre un dossard, c'est vivre ». Lorsqu'il a gagné cette étape à Val Thorens en 97, dans le Tour 97, il a ce souvenir, il dit qu'il vaut mieux gagner une étape dans le Tour de France parce que ça dure toute la vie et c'est mieux que de gagner à la loterie. Donc, ces origines très modestes, pour pas dire misérables, c'est un peu leur force et leur moteur, quoi.
On n'en a pas fini avec le cyclisme colombien. Il se renouvelle sans cesse, finalement. Encore une fois, on en revient au début de cette interview. Le terrain est fertile, propice à voir éclore des grimpeurs et des coureurs de plus en plus complets.
Oui, la Cordillère, c'est presque génétique, je dirais, parce que depuis les années 50, elle forme toujours des champions. Ça a commencé avec Ramon Hoyos, le fameux Ramon Hoyos dont García Márquez a écrit la biographie. Et puis Cochise, Lucho, Fabio Parra, etc. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une génération. Tout le monde, dans les équipes du World Tour, tout le monde veut avoir son Colombien dans l'équipe. C'est redevenu une puissance mondiale dans le cyclisme d'aujourd'hui.
Et ça peut donner des idées. On a entendu parler l'hiver dernier d'un partenariat qui se mettrait en place entre le Rwanda et la Colombie. Le Rwanda a un profil montagneux avec des coureurs qui sont d'excellents grimpeurs. Peut-être que l'exemple des Colombiens peut faire rêver les coureurs rwandais de grandes victoires. Ils en sont loin encore. On est dans un Tour de France là où il y a finalement un peu moins de participation africaine que ces dernières années. Mais c'est l'espoir. Le chemin est tracé, peut-être le chemin à suivre.
C'est fort possible. Je verrai très bien des coureurs rwandais venir s'entraîner et se former dans la cordillère, parce que la Colombie est un pays, pour cela, exceptionnel. Il n'y a pas de racisme. Ils seraient les bienvenus et sans doute, ça pourrait, ce mélange pourrait servir aux deux nations, finalement, et pourquoi pas des Rwandais courir avec des équipes colombiennes aujourd'hui.
Guy Roger, ex-grand reporter vélo au journal L'Équipe et auteur chez Solar de Bernal et les fils de la Cordillère. Un mondial sport décidément très complet. On y parle même de handball, dites donc. Et même pas avec Christophe Thirayen.
Quelle drôle d'idée.
Qui doit nous écouter. Et que vous retrouverez demain matin dans les journaux des sports. Martin Guez, vous l'avez entendu. Bonsoir, jeune homme.
Bonsoir, Olivier Pro. Bonsoir à tous. J'oserais pas dire plus qu'Olivier Pro.
Voilà, bah vous faites mieux. Soirée de gala au pied des pyramides de Gizeh, l'Égypte, où avait lieu le tirage au sort du prochain championnat du monde en janvier 2021, si tout va bien. Une compétition qui fait peau neuve.
Oui, de 24 équipes, le mondial est passé à 32, ce qui laisse donc de la place aux petits nouveaux, notamment en Afrique, de 3 représentants. Le continent est passé à 7, et parmi les bisous, Olivier, la République démocratique du Congo, qui pour sa première participation est décidément bien servie en compagnie des champions du monde en titre danois et des champions d'Amérique du Sud, l'Argentine. Première corsée aussi pour le Cap-Vert, des requins bleus, sensation de la dernière CAN, qui rencontreront l'Allemagne, 3 fois championne du monde, la Hongrie, valeur sûre européenne, et l'Uruguay peut-être l'adversaire le plus accessible.
Quant au pays hôte égyptien, il a les moyens d'être, comme c'est bien écrit mon cher Martin, pharaonique.
Je sais vraiment pas qui écrit tout ça. Champion d'Afrique sortant l'Égypte vise le sommet de la pyramide. Demi-finaliste en 2001, les pharaons sont dans une poule a priori abordable en compagnie de la Suède et de la République tchèque. L'autre teneur africain, Olivier, c'est la Tunisie qui a une bonne chance, une bonne carte, surtout à jouer derrière l'intouchable Espagne, championne d'Europe. Le Brésil et la Pologne paraissent prenables et dans une compétition où les 3 premiers de chaque poule passent au deuxième tour, eh bien une équipe africaine est sûre de se qualifier puisque les voisins marocains et algériens sont dans le même groupe. Ils se disputeront sûrement le dernier ticket et la 3e place derrière le Portugal et l'Islande. Enfin, l'Angola devra sortir le grand jeu face à la Croatie, le Qatar et le Japon.
Pour terminer, Martin, petit mot sur l'équipe de France, quand même, nation la plus titrée de la compétition.
Oui, tout de même, 6 fois vainqueur de l'épreuve, hein, les Bleus de Guillaume Gilles, qui étaient pourtant dans le chapeau 3, une petite aberration. Ils étaient donc exposés à un tirage sévère, et ça n'a pas manqué, la Norvège d'entrée, ni plus ni moins que les vice-champions du monde en titre, et puis l'Autriche pour compléter tout ça.
Martin Guez, merci.
Bah de rien.
On vous retient pas plus longtemps.
Non, je rentre chez moi. Merci.
Voilà, vous avez sans doute à faire, vous m'attendez quand même. Du tennis pour terminer ce Mondial Sport, ce retour de Mondial Sport sur les antennes de RFI. On dispute en ce moment la fin du 3e tour à l'US Open, le tournoi du Grand Chelem à New York. Chez les hommes, qualification pour les 8e de finale des Russes Medvedev, tête de série numéro 3, et Rublev, de l'Italien Berrettini, tête de série numéro 6, de l'Australien Desminor. Et puis actuellement, le Canadien qui a des origines togolaises, Félix Auger-Aliassime, est en train de corriger le jeune Corentin Moutet, 6-1, 6-0 et 5-4 dans la 3e manche. Chez les femmes, 19e qualification en 8e de finale, en 19 participations de rang pour Serena Williams, qui a donc battu Sloane Stephens en 3-7, la lauréate 2017. Serena Williams qui est en quête d'un 24e tournoi du Grand Chelem. Énorme bilan complet de cette première semaine. Demain dans Mondial Sport, bien sûr, avec l'ancien joueur Julien Varlet. Ça vous a plu? Vous aimeriez revenir? Eh bien, revenez demain, 21h30, temps universel. Hélène Avril sera aussi là et on aura plein de choses à vous proposer. On parlera football, rugby, vélo et vous l'avez entendu, tennis.
RFI, la sélection du mois.
Protoji. Charlie Couture.
C'est les frontières en marche en la nuit. Parti de là-bas, il était venu ici. Il n'avait pas une chance, c'était ça ou rien. Y'a les gars qui ont pas de chance,
on est trop loin.